Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, la fin annoncée de Theresa May à la tête de la Grande-Bretagne. Elle devrait annoncer sa démission demain, emportée par un Brexit qu'elle n'a pas su conduire. Nous serons à Londres dans un instant. Et alors que les Britanniques votent dès aujourd'hui pour les Européennes, la campagne se termine en France. On verra qui est le plus satisfait de sa prestation au débat d'hier soir sur France Inter et sur France 2. Ça n'est sans doute pas François Bayrou, venu représenter la liste de Nathalie Loiseau, qui sera dans ce studio dans 20 minutes.
Et vous avez la parole, évidemment, au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application France Inter pour dialoguer donc avec Nathalie Loiseau.
À la une également la bataille pour un salaire minimum à 15 euros de l'heure aux États-Unis, la peine des religieuses de la communauté des filles de Jésus après l'assassinat de l'une des leurs en Centrafrique, la colère des forains qui veulent bloquer Paris aujourd'hui, ils refusent d'être soumis à des appels d'offres pour organiser leur fête, et puis un polar signé Desplechin à Cannes.
France Inter.
Combien seront-ils les Britanniques à voter pour envoyer des députés dans cette Europe dont ils ne veulent plus? Ouverture des bureaux de vote à l'instant au Royaume-Uni. Le scrutin chez eux a lieu aujourd'hui alors que Theresa May vit sans doute ses dernières heures au 10 Downing Street. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Correspondant de France Inter à Londres, Antoine, Theresa May a présenté un dernier plan pour le Brexit cette semaine. C'est manifestement un échec. Elle devrait annoncer sa démission demain. C'est ce que vient d'annoncer le Time.
Oui, si elle ne part pas toute seule, les conservateurs vont la pousser dehors, explique le Times. En théorie, la première ministre est protégée. Elle a survécu il y a quelques mois à un vote de confiance organisé au sein du parti conservateur. Le règlement interne lui donne le droit de rester au pouvoir jusqu'au mois de décembre. Mais ce règlement, les conservateurs chargés de veiller à la bonne marche du parti ont voté hier pour le changer. C'est ce qu'explique le quotidien britannique. Vote secret dont le résultat a été mis dans une enveloppe scellée. Si Theresa n'annonce pas demain elle-même son départ, l'enveloppe sera ouverte et elle sera forcée de partir. La première ministre est de toute façon plus fragile que jamais après la démission hier d'Andrea Leadsom, présidente de la Chambre des communes. C'est le 36e départ d'un membre du gouvernement en moins de 3 ans et un vrai coup dur à un moment où le scrutin des européennes risque de ressembler à une catastrophe. Les sondages le disent, chez les conservateurs, un électeur sur 5 se dit prêt à voter pour le Brexit Party de Nigel Farage, qui demande une sortie immédiate de l'Union européenne.
Antoine Gignot en direct de Londres pour France Inter. Theresa May emportée par le Brexit, un jour d'élection chez nous. Elles auront lieu dimanche avec un enjeu très lourd pour Emmanuel Macron qui s'est personnellement impliqué dans la campagne. Du débat de France 2 et France Inter hier soir, on a retenu les attaques groupées contre François Bayrou, venu représenter la majorité, les frictions entre Marine Le Pen et Laurent Wauquiez. Et pour ce que nous n'avons pas vu, il y a Maxence Lambrecq dans les coulisses pour un débriefing assez instructif de la soirée.
À la sortie du plateau, Marine Le Pen, tout sourire, elle regarde partir Laurent Wauquiez et confie « Je suis bien contente de lui avoir mis un scud, le voici ».
Vous m'avez l'air assez agressive ce soir, encore une fois.
Non, je ne suis pas agressive, mais j'aimerais bien pouvoir dire une phrase.
Sûrement, vous n'êtes pas à nouveau dans ce tempérament du second tour de la présidentielle.
Ça y est, ça faisait longtemps.
Hein ?
Et vous savez quoi, M. Wauquiez, j'espère qu'un jour vous aurez la possibilité de faire un débat au second tour de la présidentielle.
J'aime beaucoup.
Attaque anticipée, reconnaît-elle. Il m'avait déjà fait ce coup-là dans un débat précédent. J'ai donc eu le temps de préparer une réplique. La satisfaction de Marine Le Pen croise la désolation de François Bayrou. Visage fermé, contrarié, regard sombre. Il chuchote quelques mots à son équipe et s'engouffre dans sa voiture. Il n'est jamais bon en débat, lance alors Yannick Jadot. Je ne vois pas pourquoi ils l'ont envoyé, il casse le rythme. Le candidat écolo est apparu, lui, bien trop rugueux aux yeux de Manon Aubry. Il a, dit-elle, confondu fermeté et agressivité. Au détour d'un couloir, la candidate insoumise reçoit les compliments de Raphaël Glucksmann. « Vous faites une bonne campagne », reconnaît le candidat PS Place Publique. Et lui n'est pas mécontent de sa prestation. Cinquième candidat le plus convaincant, selon le sondage réalisé en temps réel. Juste derrière Nicolas Dupont-Aignan. Et sur le podium, on retrouve Manon Aubry, Yannick Jadot et en tête Marine Le Pen.
Et ce débat fera-t-il bouger les lignes dans une campagne relativement atone? La participation s'annonce toujours aussi faible, 42% selon notre sondage Soprasteria pour Radio France et France Télévisions réalisé hier et avant-hier. Ces élections ne sont définitivement pas une priorité pour les Français, comme l'explique Stéphane Zumsteck, directeur du département politique et opinion d'Ipsos.
Quand on leur demande quelle signification ils donneront en priorité à dimanche prochain, c'est-à-dire le 26 mai, on leur a demandé pour vous, ce serait avant tout les élections européennes, Roland-Garros, la clôture du festival de Cannes ou la fête des maires. Vous avez quasiment deux tiers des Français qui nous disent que dimanche prochain, ce sera la fête des maires, bien avant les élections européennes. Alors, au-delà de ce côté anecdotique, ça en dit long aussi sur le désintérêt qu'éprouve une partie, une majorité des Français à l'égard de cette élection qui, rappelons-le, n'aura véritablement pas passionné les foules. Il y a un sentiment de déception. Déjà, il n'y a pas eu de campagne, c'est un peu ce qu'ils nous disent. Elle a démarré évidemment très tard, pour toutes les raisons que l'on sait, la crise des gilets jaunes, le grand débat national, l'incendie de la toiture de Notre-Dame qui a également retardé de quelques jours. Mais en gros, ce qu'ils nous disent, c'est que finalement, cette campagne ne leur a pas permis d'apprendre grand-chose sur les programmes des différentes listes et sur la personnalité de ces têtes de liste. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il s'agit de mauvaises têtes de liste, hein. Il ne s'agit pas forcément d'erreurs de casting, mais très clairement, compte tenu de la polarisation de ces élections autour de la personnalité d'Emmanuel Macron, finalement, les têtes de liste ou leur personnalité comptent relativement peu et on s'oriente quand même essentiellement sur un vote par étiquette.
Stéphane Zumsteg, directeur du département politique et opinion avec Adrien Toffolet. Et voilà, à contrario, qui passionne tout le monde, l'écologie, priorité du temps présent. On l'a vu hier au débat, ça a été le premier sujet de discussion et sujet de consensus entre les principaux candidats. On va le voir ce matin à l'Élysée avec le premier conseil de défense écologique. Rien que l'intitulé donne une idée de l'importance que veut lui donner le chef de l'État. On y attend des annonces concrètes. Il serait question de ne plus négocier commercialement avec des pays qui n'ont pas signé l'accord de Paris sur le climat ou encore de créer de nouvelles réserves naturelles, Sandy Dauphin. L'écologie, c'est désormais le combat d'Emmanuel Macron.
Jusqu'à présent, cette méthode de travail était réservée aux questions de sécurité nationale. L'écologie a désormais aussi son conseil de défense. Le président et le premier ministre réunissent une quinzaine de ministres ce matin. Environnement, logement, transport, économie et finances ou encore affaires étrangères. Ils doivent travailler ensemble sur les questions de biodiversité, de climat, de transition écologique, des sujets transversaux. Comment encourager des modes de déplacement, de chauffage, de consommation moins polluants sans travailler avec les ministères de l'économie, des finances ou encore du logement. Comment favoriser un modèle agricole plus durable si, comme on l'a vu par le passé, les ministres de l'environnement et de l'agriculture ne sont pas sur la même ligne. C'était l'un des griefs de Nicolas Hulot, la solitude du ministre de l'environnement au sein du gouvernement, l'impression de devoir batailler en permanence contre ses collègues, contre Bercy qui tient les cordons de la bourse. Les associations de défense de la nature attendent de juger sur pièce ce nouveau conseil de défense de l'écologie pour savoir s'il s'agit d'un changement de braquet ou d'un simple coup de peinture verte à trois jours du scrutin européen.
Yannick Jadot dénonce déjà l'opportunisme électoral d'Emmanuel Macron. Les salariés d'Ascoval reçus aujourd'hui par Bruno Le Maire, l'annonce de la faillite de British Steel dont la maison mère vient de reprendre l'acierie française a fait l'effet d'une bombe, même si Bercy assure que cela n'aura pas d'incidence sur la reprise.
Il est 8h09, Florence, 15 dollars de l'heure pour pouvoir vivre dignement.
Combat du moment aux États-Unis pour un salaire minimum fédéral. La mesure est défendue par la quasi-totalité des candidats à la primaire démocrate avant la présidentielle de 2020. Certains d'entre eux seront donc sur les piquets de grève organisés aujourd'hui dans une dizaine de villes à travers le pays. Ce sont les employés de la restauration rapide qui seront en grève à l'avant-garde du mouvement depuis des années, Loïc Loury.
Fin 2012, il n'était que quelques centaines à s'être mobilisés à New York. Une grève presque inédite pour le secteur avec une revendication de taille, un salaire minimum quasiment doublé à 15 dollars de l'heure. Depuis, ces travailleurs new-yorkais ont obtenu gain de cause et le mouvement Fight for 15 a largement débordé la ville. Ses partisans comme D'Angelo, employé chez McDonald's dans l'Illinois, n'hésitent plus à afficher leurs revendications sur les réseaux sociaux.
C'est important pour moi parce qu'avec une telle loi, je pourrais aider ma famille, retourner à l'université et faire toutes les choses que j'aimerais faire.
Et si le mouvement commence à payer dans une trentaine d'États, le SMIC reste bloqué à 7,25 $ au niveau fédéral. Nicolas Allen travaille pour un syndicat qui regroupe 2 millions d'employés des services. On est, dit-il, loin du compte.
15 dollars, c'est le minimum qu'il faut pour vivre dignement dans la majorité des régions américaines. Mais ça va au-delà juste de la lutte des fast-foods. Tous les travailleurs mal payés sont en train de se lever pour un salaire digne et les entreprises comme McDonald's vont devoir répondre à cette demande.
Les démocrates, eux, se jettent dans la bataille. Quatre des prétendants à la primaire en vue de la présidentielle seront aujourd'hui sur le terrain avec les grévistes. New York, Loïc Loury, France Inter.
Grosse colère de Donald Trump hier, furieux après les démocrates qui parlent de plus en plus de destitution. La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, l'a pour la première fois envisagée devant les multiples refus de l'administration Trump Trump de répondre aux enquêtes parlementaires sur l'affaire russe. Investigation bidon, enrage le président américain. Et puis après Google et les États-Unis, les firmes japonaises et britanniques suivent le mouvement anti-Huawei. Panasonic, par exemple, annonce qu'il arrête de fournir des composants électroniques aux Chinois. Elle avait le virus de l'Afrique où elle s'était engagée pour aider les plus pauvres. Sœur Inès, 77 ans, assassinée de la façon la plus barbare en Centrafrique. Elle appartenait à la communauté des filles de Jésus dans le Tarn où une cérémonie aura lieu ce matin. Ses sœurs, qu'a rencontré Sandrine Morin, sont sous le choc.
C'est sans doute sœur Yvonne qui a le mieux connu sœur Inès. Alors elle ressasse les conditions de la mort de son amie.
C'est horrible, ça me meurtrit, je me dis mais dans quel monde nous sommes, dans quelle violence nous sommes.
Leur rencontre, c'était dans les années 80 dans le Tarn.
Dans le quartier de la Dame Petit Train à Castres, un quartier populaire, où nous avons essayé d'être proches des gens, c'était notre mission. Et sœur Inès avait un don pour ça. Et elle avait un lien très facile avec les gens.
Et puis, sœur Inès a très vite dit qu'elle voulait partir.
Quand elle est arrivée à Castres, elle nous a dit je ne resterai pas là, je veux aller en Afrique. Et ça lui a plu. Et elle travaillait auprès des femmes et des filles, à la couture, elle les formait. Et elle avait un souci quand même très important d'aider les jeunes. Inès avait besoin d'amour et elle en donnait beaucoup. Mais elle n'était pas propriétaire des gens, c'était toujours très discrètement.
L'Afrique, qui est partout dans le petit couvent de Massac, des tableaux, des sculptures d'ivoire ou d'ébène, des fauteuils au tissu chamarré, un lien qui, malgré tout, n'est pas prêt de se couper.
Nos sœurs ne vont pas quitter Berberati, ne vont pas quitter la Centrafrique. Elles sont très attachées à leur pays.
12 sœurs de la communauté vivent encore en Centrafrique.
Les obsèques de la religieuse franco-espagnole auront lieu mardi matin. Pierre Botton a-t-il piqué dans la caisse de son association contre la récidive ? L'ancien homme d'affaires déjà condamné et emprisonné dans les années 90 pour abus de biens sociaux sera jugé le 12 juillet prochain à Paris, soupçonné d'abus de confiance, d'escroquerie et d'abus de biens sociaux, entre autres, ce qu'il conteste.
8h13, attention aux forains en colère aujourd'hui à Paris.
Ils veulent bloquer le périphérique et manifester jusqu'à l'Élysée. Ils protestent contre une directive européenne qui les soumettent à la concurrence pour s'installer dans les villes et les villages. Reportage à la Foire du Trône dans le bois de Vincennes, signé Yann Gallic.
Michael Leclerc parcourt la France avec ses manèges à sensation, ses grandes roues et ses montagnes russes de 45 mètres de haut.
Prenez vos places, on vous attend, en voiture.
Le métier de forain est devenu difficile, explique Michael, surtout avec la nouvelle réglementation en vigueur depuis 2017 qui oblige les communes à lancer un appel d'offres pour les emplacements des fêtes foraines.
Chaque mairie a son pouvoir de nous dire oui ou nous dire non. Et c'est là le gros problème, c'est que nous, comment on fait pour vivre derrière ? Si on nous enlève des emplacements, si on ne peut pas aller dans telle ville ou dans telle ville et faire notre métier, bah le problème c'est que nous, on se retrouve avec des dettes derrière. Et s'il y a un dépôt de bilan, donc tous les ouvriers qu'on a derrière, bah, il n'y en a plus. Je pense qu'on va dans un mur.
Vraiment super ce petit manège.
Forain depuis 40 ans, Jean-Luc regrette également cette ouverture à la concurrence.
Demain, bah, il y aura peut-être une autre personne, peut-être même pas un forain, qui viendra et qui postulera sur ma place. J'ai mon frère, par exemple, dans le Nord, il fait toutes les petites fêtes, donc il a 17 foires. Il va falloir un bureau, une secrétaire bientôt, pour remplir à chaque fête un appel d'offres. On n'a pas besoin de ça, en fait. Il y a autre chose à faire que de venir nous embêter dans nos petits commerces.
Aujourd'hui, Jean-Luc manifestera dans les rues de Paris avec son semi-remorque, direction l'Élysée, pour essayer d'interpeller le président de la République.
Pas de mondial à 48 équipes au Qatar en 2022. Impossible d'organiser des matchs dans les pays voisins. La FIFA renonce donc à innover pour cette prochaine Coupe du Monde qui restera à 32 équipes. Enfin, un polar hier soir sur la croisette Roubaix. Une lumière d'Arnaud Desplechin avec Roche Dizem dans le rôle d'un commissaire de police. Léa Seydoux et Sarah Forestier dans celui de deux meurtrières. Le film est inspiré de faits réels. C'est un premier polar pour Desplechin qui s'est inspiré de quelques classiques du genre et qui pose de vraies questions morales, Eva Bétan.
Arnaud Desplechin, on peut le dire simplement, est un des plus grands metteurs en scène français. Il fait un film policier inspiré de faits réels, ou plutôt, il s'y confronte. Desplechin semble vouloir laver son regard de ce qu'il sait, tenir le romanesque à distance, approcher le réel. Un commissariat à Roubaix, 45% de chômage, une ville qui a compté et qui ne compte plus, et ce crime qui a défrayé la chronique il y a quelques années, deux jeunes femmes qui ont tué une vieille dame. Il y a un policier nouvellement arrivé et surtout il y a Daoud, le commissaire, Rush Dizem. La lumière de Roubaix, c'est lui. Son calme, sa douceur, sa manière égale de regarder une fugueuse et même ses deux jeunes meurtrières. Ce n'est ni un prêtre, ni un saint laïc. C'est un homme qui jamais ne nie l'humanité de ceux qu'il a en face de lui, même ceux qui ont commis le pire, qui peut, sans dire mot, faire comprendre vous continuez à faire partie de l'humanité. La puissance du beau film d'Arnaud Desplechin ne s'impose pas, elle nous met face à des enjeux moraux avec la puissance d'expression de la caméra. À Cannes, Eva Bétan, France Inter.
Et au programme aujourd'hui, Le Traître de Marco Bellocchio et le dernier Kechiche, deuxième volet de la saga Mektoub My Love, un film, Nicolas, de près de 4 heures.
Merci Florence Paracuelos.